Coulam.
Raphaël Delpas, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes cinéaste et romancier. Vous avez publié en janvier 1992 « Les enfants cachés », qui a donné lieu à un documentaire cinématographique. Il s'agit d'un recueil de témoignages, des témoignages de ceux qui, durant la Seconde Guerre mondiale, n'étaient que des enfants, des témoignages d'adultes qui ont fait preuve d'altruisme pour tendre la main à ces enfants qui en avaient tant besoin. Vous rappelez fort justement que l'idée de cacher des enfants dans les milieux non-juifs est due au médecin Joseph Weil, président de l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants. Vous nous permettez de nous conforter à ce que fut la réalité, de nous confronter, pardon, à ce que fut la réalité d'enfants que rien ne prédestinait au tragique et qui d'un seul coup passait de l'innocence à l'inimaginable. Votre enquête évoque la France et la Belgique. Alors, un premier témoignage dans votre ouvrage, c'est celui d'un jeune enfant âgé de 5 ans, dont le prénom est Svi. Alors, il nous raconte a priori une journée ordinaire. Il est en présence de ses parents à Anvers le 28 août 1942. Comme chaque soir, assis à même le tapis, il fait semblant de composer des mots en attendant que son père quitte la chaise où il était assis depuis au moins une heure. Cette attente heureuse était celle où son père se lèverait, s'étirerait et dirait en yiddish selon son habitude. Malgré tout, c'est de la bonne fabrication, ça tiendra encore longtemps. Cette phrase répétée chaque soir enchantait le jeune Svi. La suite était que son père le saisirait par la taille, le soulèverait de terre, le se rassierait et l'installerait sur ses cuisses jointes. Et puis, de la rue parviennent des bruits inquiétants. Vous souvenez-vous de la suite ?
Alors, là, vous me piégez un peu. Inquiétante, il me semble que l'immeuble est investi.
Oui, en effet.
Et que c'est, de mémoire, hein, c'est l'enfant sur le même palier de l'appartement en face, sur le même palier, qui, je crois, va être arrêté et pas lui. C'est ça ?
Oui. C'est assez terrible, d'ailleurs, de voir comment, en l'espace d'un instant, alors que rien ne laissait a priori dans l'esprit d'un enfant imaginer que il y aurait un tel basculement. C'est une succession, d'ailleurs, de témoignages un peu de même nature que vous nous proposez. On va citer quelques témoignages et ensuite on réfléchira, si vous le voulez bien, ensemble sur les enseignements qu'on peut tirer. Je voudrais signaler le témoignage de celui que vous nommez Jacques K, dont le père reçoit une convocation au camp de Malines. Alors, vous nous relatez, et c'est tout à fait symptomatique de débat qu'il y a pu y avoir dans certaines familles, le différend entre le père et la mère, sur le fait d'y aller ou pas. Ce cas est vraiment emblématique de nombre d'hésitations dans les familles. À ce moment-là, vous avez rencontré beaucoup de témoins. D'autres ont été confrontés à cette même hésitation ?
Oui, tout à fait. Rappelez-vous, ici, en France, le fameux billet vert qui avait été distribué. Alors, soit ils étaient distribués en début de soirée aux familles juives, soit il était distribué à 4 ou 5 heures du matin par des gendarmes qui littéralement le jetaient dans les mains, après avoir sonné ou frappé à la porte, le jetaient dans les mains du père ou de la mère qui ouvrait la porte. Et c'était une convocation qui paraissait totalement innocente. Vérification d'identité, venez à tel endroit. Alors, certains, ceux qu'ils recevaient la veille, c'est-à-dire donc la veille, passaient des heures à se poser la question. Est-ce que on doit y aller ? Si on y va, qu'est-ce qui se passe ? Et n'oubliez pas que les Juifs en Europe, en Belgique, en Italie, en France, étaient très légalistes. La loi comptait avant tout, la loi de la République, la loi du pays qui les avait accueillis comptait avant tout, et que si, malgré tout, on leur demandait de venir, ben, c'était peut-être parce que c'était une vérification supplémentaire. C'est vrai que c'était pas drôle. On allait peut-être manquer quelques heures au travail, à l'atelier ou à son lieu de travail, mais peut-être qu'on va y aller. Mais c'était des grandes discussions, et ceux qui étaient peut-être les plus, non pas les plus avertis sur la suite horrible qui va avoir lieu, qui aura lieu, c'est les communistes qui étaient les communistes et les Alsaciens. Les Alsaciens étaient au balcon de l'histoire. Ils ont vu Adolf Hitler arrivé à la chancelier du Troisième Reich. Donc ils avaient déjà un peu une idée. Les communistes étaient un peu aussi au courant, non pas au courant des camps d'extermination, mais au courant des juifs, j'ai oublié de préciser, pardonnez-moi, les juifs communistes, parce que ils venaient des pays de l'Est, et que ceux-là avaient vécu des pogroms dans leur famille, etc. Et que lorsqu'un policier convoque un juif, c'est jamais pour lui faire plaisir, c'est jamais pour son bien.
Alors juste, il y a eu, je vais faire juste une parenthèse personnelle et puis on va revenir au livre lui-même. Vous me faites me souvenir d'un témoignage d'une tante Lola qui malheureusement n'est plus là et qui nous racontait qu'en juillet 42, elle se rend au commissariat pour aller se faire recenser un grand nombre de nos coreligionnaires l'ont fait. Et alors, miracle de miracle, elle tombe sur des fonctionnaires de police qui lui disent « Madame, partez, rentrez chez vous ». Et non, elle insiste, elle veut absolument se faire enregistrer. Et un deuxième policier vient et lui dit sur un ton martial « Partez, ne restez pas ici ». Et donc, sa vie a tenu à ce moment-là de témoignages de policiers justes qu'on n'a évidemment jamais retrouvés, mais il y a eu des, heureusement de temps en temps, mais tellement peu de lumière dans tant d'obscurité. J'aurais qu'on avance un petit peu. Il y a eu des personnages que vous nous faites découvrir qui sont absolument exceptionnels. Je pense dans l'organisation de la fuite des enfants. Vous évoquez une femme remarquable qui s'appelle Cécile Vallée et vous nous relatez une nuit d'octobre 43 où elle accompagne des enfants pour les faire passer en Suisse. Et vous narrez l'angoisse qui les saisit lorsqu'au passage de la frontière, un soldat leur dit « Halte !» et un des enfants laisse échapper « C'est un Boche !» Fort heureusement, ce ne fut pas le cas.
Non, c'est... Alors là, on est dans une autre phase de la tragédie des enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, avec des passeurs qui ont été d'un courage inouï, Et puis, vous aviez aussi des policiers suisses. Je vous rappelle que la fédération, je crois qu'on dit ça comme ça, la fédération helvétique...
La confédération.
Oui, je crois qu'on dit fédération.
Ah bon, excusez-moi, je suis désolé.
Je crois. Avait décidé que la barque était pleine et qu'il n'était plus question de faire entrer qui que ce soit, et notamment de juifs. Mais les passeurs, évidemment, n'en avaient que cure et faisaient tout leur possible pour passer. On se souvient d'un homme magnifique comme Georges Loinger, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, partie de l'armée juive clandestine en France, et qui a passé avec beaucoup de talent, beaucoup de courage, beaucoup de pugnacité, a passé des quantités, je ne peux pas dire incroyables, mais de beaucoup de quantités d'enfants. Et c'est vrai qu'il y a eu, fort heureusement, des soldats suisses qui ont dit voilà, on laisse passer parce qu'il y a l'humanité, parce que ce sont des enfants, parce que on leur doit la vie en quelque sorte, on veut que leur vie continue. J'ai eu le grand honneur et l'insigne honneur pour un autre livre d'interviewer Madeleine Barrault. Madeleine Barrault était la secrétaire générale de la FIMAD. Association protestante qui a été créée dès l'établissement des premiers camps d'internement dans la zone sud. Et elle a été aussi une de ces femmes magnifiques qui a passé beaucoup d'enfants en Suisse. Quand, quelques années, donc avant sa mort bien sûr, je me suis beaucoup entretenu avec elle, et elle m'a montré un jour une liste de noms qui étaient mais vraiment griffonnés en quelque sorte sur le papier. Et elle me dit, voyez-vous, ce sont tous ces enfants que j'ai fait passer en Suisse, qui aujourd'hui ne savent pas qu'ils sont juifs. C'est aussi un autre drame. Il y a dans le monde des femmes, des hommes aujourd'hui qui ont évidemment un certain âge et qui ont été sauvés par des gens magnifiques, mais qui, pour des raisons de protection, ne leur ont pas dit qu'ils étaient juifs. C'est aussi une autre part de l'histoire, une autre part terrible de l'identité qui disparaît. Est-ce que c'est important de le savoir? c'est pas à moi de répondre, bien sûr. Mais voilà ce que je voulais dire aussi sur les passages et sur ces femmes et ces hommes et sur ces enfants je me souviens d'un témoignage, je crois qu'il est dans le livre, d'une petite fille qui est cachée dans une maison, je crois que c'est dans le midi de la France, et elle n'arrive pas à parler. Elle parle yiddish et elle n'arrive pas à parler le français, on va dire, et elle est obligée d'avoir un interprète. Enfin, c'est des situations monstrueuses, quoi.
Alors, Madeleine Barrault, que vous citiez, vous le racontez dans le livre, qui est intervenue à un nombre de reprises incalculable dans le camp de Gurs,
c'est de Gurs,
et c'est quelque chose d'absolument incroyable. J'inviterai évidemment à nos auditeurs à pouvoir se plonger dedans. Alors, il y a des passages souriants, il y en a des moins souriants au niveau du comportement, mais alors, est-ce qu'on peut leur reprocher, ils ne savaient pas. Je pense à ce couple de paysans dont vous nous parlez, paysans français, qui accueillent le jeune Marcus contre de l'argent.
Oui.
Et la nuit passée, ils constatent que son argent, tout son argent et son vélo a été volé. Alors le mari ne cesse de répéter « Bosch, Bosch !» Et le jeune Marcus, qui ne parlait pas le français, essaie en vain d'expliquer qu'il était juif. Alors ils le saisissent tel un cochon, vous nous racontez, avant d'être tué, ils le pendent par les pieds sur une poutre. Et au bout de la deuxième nuit, le sang se mit à couler, des oreilles et du nez, il perdit connaissance. Et il fut sauvé miraculeusement par un couple d'Anglais. Alors la conséquence aujourd'hui, c'est qu'il souffre tout, j'espère qu'il est encore en vie, qu'il souffre toujours de périodes d'amnésie.
Alors j'ai pas eu de ces nouvelles depuis très longtemps, enfin depuis quand j'ai pu recueillir son témoignage. C'est la situation des juifs allemands, je vais vous raconter... Une autre histoire très courte. Je me souviens plus du nom de la femme. Je m'en excuse auprès d'elle. Qui a fui quand Hitler est arrivé au pouvoir en 33. Elle a pu fuir l'Allemagne nazie qui allait se mettre en place, et elle s'est retrouvée dans un camp à Gurs, ou un de ces camps de la zone sud, qui, je vous le rappelle, était en 36-37 les camps pour les républicains espagnols. Mmh. Et donc, elle s'est retrouvée avec... Elle était, employée dans une banque, dans une ville en Allemagne, dont j'ai oublié le nom, et elle s'est retrouvée avec son directeur, qui, lui, n'était pas juif, mais qui fuyait l'Allemagne pour d'autres raisons. Donc, c'est-à-dire, il y a une espèce de folie. J'ai lu dernièrement, alors je lui fais de la publicité parce que c'est pour moi un grand écrivain, Romain Slocum, qui vient d'écrire un livre sur l'Exode, une sorte de polar sur l'Exode, et qui est un garçon qui a un talent inouï, et raconter toutes ces tragédies. C'est-à-dire que vous aviez des Juifs qui se retrouvaient un peu comme ce pauvre enfant, ce pauvre jeune homme, adolescent, Marcus, parce que pour le français, le paysan, et qu'il soit paysan ou citadin, mais l'allemand occupant, c'était un Bosch. Lui était allemand, ce pauvre Marcus. Il était allemand. Il ne voyait pas au-delà de cela. Et à cause de cela, ils l'ont martyrisé. Ils n'ont pas martyrisé parce qu'il était juif, mais parce qu'il était allemand.
Oui, oui.
Cette situation, on ne racontera jamais assez, entre autres choses, bien sûr, la situation terrible des juifs allemands qui ont réussi à s'évader. Pardonnez-moi, je ne sais pas si je peux parler d'un livre que j'ai fait, qui s'appelle « La conférence des viands » de juillet 1938, et dont je vais probablement prochainement faire un documentaire pour une chaîne de télévision. Eh bien, voilà, c'est les juifs allemands qui n'ont pas non plus été reçus par les juifs new-yorkais, parce que les juifs new-yorkais étaient en bagarre entre s'intégrer dans l'Amérique anglaise, enfin dans l'Amérique qui parle anglais, et ou bien de créer une espèce de ghetto qui parlerait que le yiddish. Enfin, il y a eu une bagarre assez épouvantable, et puis ces Allemands, ces enfants, il s'agissait des Kindertrain en l'occurrence, dès 1938, ils sont jamais arrivés en Amérique, d'abord parce que Roosevelt a fermé les frontières, mais aussi parce que les juifs américains qui après se sont amendés et après ont fait ils ont mis de l'argent, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont créé le joint, etc. Mais à ce moment-là, ils ne voulaient même pas recevoir les enfants parce qu'ils craignaient que ces enfants, qui étaient allemands, car pour eux ils n'étaient plus juifs, ils étaient allemands, avaient peut-être des maladies. Oui, c'est l'homme est l'homme. Hein. Je veux dire que c'est difficile de, enfin, c'est difficile de porter un jugement. On peut porter un jugement, naturellement, mais difficile d'être tranché, quoi. Quand vous parliez tout à l'heure de ces files d'attente au commissariat pour se faire inscrire, bah, je veux dire que mon grand-père, qui s'appelait Gattegnaud, juif grec, a voulu à tout prix, parce qu'il était légaliste, il a voulu à tout prix, on dit, bon, la loi nous dit de nous inscrire, donc je vais m'inscrire. Et sa fille lui dit, mais ben, c'est de la folie, il ne faut pas le faire. Et pourquoi il ne faut pas le faire? Il ne savait pas, mais il ne fallait pas le faire. Et pourtant, il s'était engagé, enfin, ça n'avait rien à voir, mais il s'était engagé en 39 pour remercier la France de l'avoir... il était engagé, les fameux engagés des engagés volontaires juifs de France. Voilà, il est allé s'inscrire.
Alors, on parlait tout à l'heure de ces juifs, de ces enfants cachés qui aujourd'hui se trouvent dans différents pays à travers le monde et qui ne savent pas forcément s'ils sont juifs. Je voulais qu'on revienne sur une des pages de votre livre. Un des conditionnements obligés de l'époque pour les enfants était de cacher à tout prix qu'ils étaient juifs et de se méfier de tout le monde. Dans les hommes ou dans les maisons d'enfants, la principale difficulté était la cohabitation avec les autres. Alors, Paul S., que vous citez, raconte que du temps où il était caché à Jamoigne en Belgique, il était persuadé d'être le seul juif, et c'est seulement des années après la guerre qu'il apprit qu'en réalité, sur 123 enfants que comptait l'homme, 83 étaient juifs.
Ça, c'est une histoire extraordinaire. Quand je dis histoire, c'est une page d'histoire extraordinaire de cette femme dont le nom m'échappe là, au moment où nous parlons, qui avait ce home d'enfants. L'astuce, c'était, ça s'est fait aussi en France, hein, l'astuce, c'était de mêler des enfants juifs à des enfants non-juifs, naturellement. Et le secret était tellement bien gardé, c'est-à-dire que ces enfants juifs avaient reçu l'ordre, d'une part, de ne jamais citer leur nom, on changeait leur nom, on changeait leur identité. Ceux qui parlaient, ou le yiddish, ou le ladino, enfin, selon les familles, ne devaient plus le parler, etc. Et ils ne devaient jamais faire montre de leur appartenance à une population, à un peuple. Et c'est tout à fait extraordinaire. Il y a une autre histoire qui est assez extraordinaire, qui n'est pas dans le livre, mais qui est dans le film sur les enfants cachés. C'est une ferme, et il y a deux entrées, c'est-à-dire il y a la façade, ben devant et derrière. Il y a deux familles, écoutez-moi bien, il y a deux familles qui vivent pendant 3 ans, c'est pas 2 jours, c'est pas 1 heure, 3 ans, qui vivent 3 ans dans cette ferme. Il y a les fermiers au milieu, bien sûr, qui nourrit les uns et les autres, qui cachent les uns et les autres. Eh bien, c'est seulement à la fin de la guerre, qu'ils se sont aperçus qu'il y avait que chaque famille s'est aperçue qu'il y avait une autre famille de l'autre côté.
Incroyable. Incroyable.
Ça vous dit aussi le degré de silence de ces gens-là.
Ah oui. Oui.
Et ces silences, c'est un affect aussi.
Eh ben oui, on verra un peu plus tard les conséquences que tout ceci ont pu générer. Oui. Je voudrais qu'on s'arrête sur une lueur d'humanité rencontrée à nouveau par Laure, qui, rendant visite accompagnée de sa mère à son père détenu au camp de Rivelsat, voit sa mère mourir d'une crise cardiaque. Elle décide de rester aux côtés de son père et le groupe est alors transféré au camp de Gurs. De ce camp, elle décrit l'horreur. C'était un camp de concentration, dit-elle, mais sans les crématoriums. Alors la jeune Laure tombe évanouie et transportée à l'infirmerie, puis protégée par l'infirmière-chef qui, contre quelques menus services, accepta de la garder plusieurs semaines à l'infirmerie. C'est pas grand-chose et c'est énorme.
Mais c'est énorme. C'est pareil à Madeleine Barrault et à d'autres qui cachaient, par exemple, du lait sous une baraque, qui cachaient du pain sous une baraque. Je pense à un autre Paul, justement, qui était dans cette situation. Il savait que s'il pouvait avoir un peu de lait, un morceau de pain supplémentaire, mais il pouvait aussi être caché sous une baraque. C'est ça. C'est-à-dire que le geste admirable de tous ces gens. Je pense, vous parlez de rappelez-moi, l'enfant qui...
La jeune Laure.
Laure, oui, Laure. qui malheureusement a été déportée. Malheureusement a été déportée, elle est, par bonheur, elle est revenue, puisque j'ai pu l'interviewer, et elle a été transportée dans un train avec des hommes, et des hommes qui étaient privés de femmes, qui étaient privés de présence féminine. Il ne s'est rien passé. En tous les cas, c'était aussi quelque chose de terrifiant pour cette petite fille de 10 ou 11 ans. Voilà, c'est toutes ces horreurs dans lesquelles ces enfants juifs, ont été... ont été en face de leur propre souffrance, de leur propre malheur, mais de leur propre souffrance surtout.
Alors un autre défi auquel les enfants ont pu être confrontés, je voudrais venir sur le cas de la jeune Sarah R. qui fut tentée pour sortir de l'enfer de se convertir, comme lui avait proposé oui. le curé. Il a fallu alors une... Alors ça c'est fou cette histoire. Il a fallu alors une apparition réelle ou virtuelle d'une jeune femme oui. qui d'une voix très douce lui dit « Tu sais, quand on est juive, on le reste toute sa vie » et du coup elle oui. ne s'est pas convertie.
C'est un meudon. C'est un meudon, et effectivement, elle est prête à se convertir. Pourquoi ? Parce qu'elle se dit « je suis juive, je ne veux plus être juive ». Parce qu'être juif ou juive, c'est porter le malheur. On l'entraîne à l'église, et elle voit le Christ. Elle sait ou elle apprend que le Christ est juif. Et donc, elle voit qu'il est sur la croix, qu'il est aussi malheureux. Et finalement, il est malheureux parce qu'il est juif. S'il est sur la croix, c'est parce qu'il était juif. Et donc, voilà, elle va se convertir, elle est dans la cour, et effectivement, il y a l'apparition. Alors, c'est elle qui le raconte, une voix très douce, une femme avec un châle vert, ou un manteau vert, je crois, de mémoire, et qui lui dit très doucement, tu es juive, tu seras toujours juive. Donc ne te convertis pas. Et elle ne s'est pas convertie, effectivement.
Alors, toujours dans le même ordre d'idées, mais à un autre niveau, un témoignage pour le moins troublant, c'est celui du pasteur protestant Alain R., qui, après une vie active au service de la foi chrétienne, s'aperçoit au terme de son ministère que nul ne peut échapper à ses origines et à son passé. Aujourd'hui, dit-il, il est en quête de quelque chose qu'il est, mais qu'il n'a jamais vécu.
Oui, ça c'est aussi une autre page de l'histoire de ce pasteur qui habitait Lyon quand je l'ai rencontré, interviewé, et qui ne savait plus, à la fois il était juif, à la fois il était chrétien, puisqu'il avait s'était converti, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, et donc il a écrit d'ailleurs une prière qui est admirable, que j'ai lue un jour dans une à la demande d'une loge maçonnique de lire une prière, et lorsque j'avais fait une conférence sur les enfants cachés, et donc voilà, il ne savait plus. Il avait vécu une partie de sa vie juive, il avait vécu une partie de sa vie chrétienne, mais il ne savait plus s'il était juif ou chrétien.
Alors, il y a une femme que j'ai...
Pertes d'identité,
oui.
Pardonnez-moi.
Oh, oui, je vous en prie, allez-y.
Les pertes d'identité sont immenses, immenses, immenses. J'ai rencontré des femmes et des hommes quand j'ai fait ce livre, et après le film, mais quand j'ai fait ce livre, j'ai rencontré des femmes et des hommes qui... allait à la fois à la synagogue et à la fois à l'église. L'identité religieuse a été un grand choc, la perte. Ils ne savaient plus, ils ne savaient pas s'ils devaient aller à la synagogue, s'ils devaient aller à l'église, donc ils allaient aux deux.
Incroyable.
Et si Dieu me repère, eh bien il ne m'en voudra pas, puisque dans les deux cas, je l'honore, enfin, c'est à peu près ça.
Incroyable.
Oui, c'est tout à fait incroyable. La perte d'identité. Vous avez dans le film, pas dans le livre, je crois pas, mais je m'en souviens plus. Mais dans le film, il y a quelques témoins, notamment à Bruxelles, qui aujourd'hui sont âgés, peut-être décédés, mais quand je les ai interviewés, qui encore répondaient à leur faux prénom. Et n'arrivaient pas à répondre des années après la guerre, n'arrivaient pas à répondre à leur vrai prénom. Il s'appelle Daniel, il s'est appelé Daniel pendant la guerre, il s'appelait David. Quand on l'appelait David, il ne réagissait pas, il fallait l'appeler deux ou trois fois, et sa propre famille. Il fallait appeler deux ou trois fois pour qu'il réalise. Ah ben oui, c'est, on parle de moi. Enfin, c'est moi qu'on appelle.
On va avancer un petit peu. J'ai tellement de choses, de questions et de propos à évoquer avec vous. Alors, une femme que j'ai connue, mais j'ai découvert son passé, c'est Liliane Klein, qui fut présidente de la coopération féminine au moment de la sortie du livre, et qui raconte son admirable travail de sauvetage des enfants dans la clandestinité. Vous lui demandez si, dans les années qui ont suivi la fin de la guerre, elle se disait que des hommes et des femmes étaient vivants parce qu'elle avait risqué sa vie. Et fort modestement, elle répond « Non, j'ai fait ce que je devais, je l'ai fait de mon mieux, je suis contente d'avoir au moins pu faire cela. »
Oui, Liliane Klein-Libert, c'était une femme que j'ai aimée, que j'ai aimée d'amitié, bien entendu. J'ai admiré avec ce côté droit, ce côté... Car il faut que nous nous souvenions de ceci. Il y avait de nombreuses jeunes filles juives qui ont risqué, et des jeunes hommes naturellement, qui ont risqué leur vie. C'est elles qui allaient chercher les cachettes, par exemple, qui, à vélo, allaient dans les campagnes, frappaient aux portes, voyaient d'abord le curé, puis après, enfin, cherchaient des cachettes, cherchaient des paysans. C'est elles qui détenaient, par exemple, les listes de ces enfants qui étaient cachés dans des familles ou dans des couvents, enfin, cachés en tous les cas. Et leur grande peur, je raconte dans un autre livre, leur grande peur, c'était non pas, écoutez bien, non pas d'être arrêtés, mais d'être contraintes de parler sous la torture. C'était ça leur crainte. C'était pas d'être arrêté, c'était pas de mourir éventuellement, d'être fusillé, c'était de parler sous la torture. Ça, c'était le grand. Et Liliane Klein, c'était la même chose. Elle est parmi toutes ces femmes de l'époque, ces jeunes filles de l'époque, elle est un visage, une présence lumineuse qu'il faut toujours honorer.
Oui. Alors, une autre femme que je ne connaissais pas, et alors c'est fou parce qu'on découvre des héros, je pense à Yvonne Jospa qui en Belgique a empêché que meurent 3000 enfants de plus dans les camps de la mort.
Absolument. Yvonne Jospa, roumaine, juive roumaine, installée en Belgique, etc. Oui, oui, elle est dans le film, d'ailleurs, j'ai pu la filmer. C'est extraordinaire. Je ne sais même plus par où il faut commencer pour raconter son travail immense, l'histoire de la maternité. Enfin, pas la maternité, comme on dit ça, pas le jardin d'enfants, mais il fallait cacher les bébés qu'elle cachait. Vous parliez tout à l'heure de Paul S. à Jamoigne. Mmh. Ben, c'est à travers elle. Et il y a aussi les anonymes. Par exemple, Jospa raconte que... On dit Jospa en Belgique. Yvonne Jospa raconte qu'elle emmenait donc des enfants juifs pour être mêlée à des enfants non-juifs pour aller à Jamoigne, par exemple, ou à un autre endroit. Mais il faut faire très attention en prenant le tram. Vous pouvez être dénoncé. Alors, elle est là avec ses enfants, avec les enfants... Évidemment, ils ont tous reçu la leçon, tu ne t'appelles plus David, tu ne t'appelles plus là, tu t'appelles là. Très bien, voilà, il y a un groupe. Et puis, elle monte dans le tram. Et là, le contrôleur du tram la regarde. Et il sait, il a compris. Et là, c'est l'instant tragique. Est-ce qu'il va nous dénoncer ou est-ce qu'au contraire, il va nous protéger? Eh bien, sur 110 fois, le contrôleur a protégé. C'est un anonyme. C'est un anonyme. Il n'est pas écrit sur le front de ses enfants qu'ils étaient juifs. Il avait compris. Ils ont compris. C'est pas magnifique, ça?
Alors, évidemment, j'invite nos auditeurs à découvrir, parce qu'il y a un foisonnement de témoignages bouleversants et qui nous aident peut-être à nous situer dans l'histoire et dans nos responsabilités aujourd'hui, on y viendra tout à l'heure. Je voudrais qu'on avance, parce qu'évidemment on pourrait rester des heures, mais il nous reste une dizaine de minutes. Vous évoquez la difficile reconstruction, alors je voudrais d'abord dire un mot sur les témoignages lors de la libération, ils sont poignants. Je pense à cet exemple du père qui vient chercher son enfant dans le home où il se trouvait, et celui-ci, s'interrogeant sur l'absence de sa mère, eh bien, comprend qu'un événement grave s'était passé. Alors, il y a eu simultanément les deux sentiments, le fait de retrouver son père et de comprendre que la mère, elle n'est pas là. Bon, il y a eu d'autres témoignages où, évidemment, il y a eu la chance de retrouver les deux parents, et d'autres témoignages où il n'y avait plus personne.
Lorsque j'ai assisté à New York en 1991 au premier rassemblement mondial des enfants ayant été cachés pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait ce que j'appelais des ateliers de travail où, pour la première fois, des femmes et des hommes allaient parler. Il y avait un témoignage, moi, qui m'a, enfin, parmi tous les témoignages, j'ai dit, c'est ce qu'il y en avait, qui m'a sidéré. C'est le suivant. Il y a une femme qui a dit, vous ici, là, vous êtes tous là, hommes, femmes, vous êtes tous là. Vous n'avez souhaité qu'une chose, évidemment, c'est de revoir vos parents. Eh bien, moi, ma mère est revenue, disait-elle. Elle est revenue. Mais elle était présente. Elle était là, à la maison. Mais elle n'était plus à la maison. Elle était à Auschwitz. Chaque morceau de pain, chaque verre que je pouvais boire, si je mettais un morceau de pain de côté parce que je ne l'avais pas mangé, elle hurlait. « Comment tu peux? Tu laisses un morceau de pain tomber, etc. » Sa vie... Elle racontait, elle dit, ma vie, j'ai été heureuse de revoir trouver ma mère, et ma vie a été un enfer. Et je n'ai eu qu'un souhait, c'est que ma mère meure, que ma mère disparaisse.
Ouais. Alors, vous évoquez aussi la difficile reconstruction, vous écrivez, jeunes adultes, ils entrèrent dans la vie animés comme chacun de la même furieuse envie de vivre. Ils reléguèrent alors au plus profond d'eux-mêmes les blessures et les cicatrices des mois sombres. Ce n'était pas le moment de l'introspection, ni encore moins celui de l'analyse. On verrait plus tard. Alors se succèdent des témoignages avec la résurgence de l'enfui lors de mariages, de naissances. Quel enseignement vous tirez de ces évocations ?
Je crois qu'il n'y a pas d'êtres au monde qui ont autant aimé la vie. Je crois qu'il n'y a pas d'êtres au monde qui ont autant ont voulu construire une famille. Et je crois qu'il n'y a pas d'êtres au monde qui ont tant souffert de construire sa vie et d'avoir des enfants parce qu'il n'y avait pas de l'autre côté les parents, les grands-parents, pour leur montrer que ça continuait.
De la même manière que nombre de déportés revenus n'ont pu parler dès le lendemain de la libération, il en fut de même pour les enfants cachés. Alors, vous ouvrez le chapitre consacré à cet aspect par la citation emblématique d'un enfant caché, dit-il, « Ce que j'ai vécu à l'époque de mon enfance pendant la Seconde Guerre mondiale est en moi comme un secret honteux. Parfois, il me prend l'envie dans la rue d'arrêter le premier venu de lui dire « J'ai un secret ». Mais voilà. Je ne le fais jamais parce que la crainte de passer pour une folle m'en empêche.
Il y a dans le film Odile Grand, qui fut une journaliste que vous avez peut-être croisée ou connue, et elle raconte, elle dit « Après la guerre, je voulais qu'on m'aime. Je voulais que tout le monde m'aime. Mais non seulement je voulais qu'on m'aime, mais je voulais qu'on me le dise. » Et j'avais qu'une envie, c'était d'arrêter les gens dans la rue et de leur dire « Aimez-moi, et dites-moi que vous m'aimez. » Ces enfants qui ont été rejetés dans l'ombre, qui ont vécu de manière ébréchée leur vie d'enfant, n'avaient qu'une seule envie, c'est d'être aimés et qu'on leur dise qu'on les aime. Ça a été, comment on pourrait dire ça, une espèce de pendentif accroché à leur cou toute leur vie. Toute leur vie.
Comment certains de ces enfants cachés appréhendraient la situation actuelle de résurgence de l'antisémitisme violent, voire létal? On peut l'imaginer, alors je vais demander de faire évidemment d'extrapolation avec le témoignage de Rosette Z, qui évoquant la guerre du Golfe, donc quelques années après la libération bien sûr, ouais. Nous dit « Quand j'ai vu à la télévision les Israéliens le visage couvert par un masque à gaz, j'ai eu peur que tout recommence. » À cause de ces fichues crises d'angoisse, je n'ai jamais pu avoir une vie sentimentale et professionnelle normale.
Non, ce sont des adultes qui ont grandi sur pilotis. Ils sont sur pilotis. Passer une frontière, pour eux, c'est une angoisse épouvantable. Montrer son passeport, c'est c'est la crainte qu'on les arrête à nouveau et qu'on les parque quelque part. Ils ont une vie sentimentale, alors pas dans l'intimité naturellement, mais ils ont une vie sentimentale complexe et compliquée. Qu'ils soient attachés ou non, de près ou de loin à Israël, le fait que sans arrêt on entend des critiques vraies ou faux, j'en sais rien, c'est pas le sujet, vers Israël, c'est pas vers Israël pour eux, c'est vers les Juifs. C'est toujours ça qui les fait craindre. Ce sont des citoyens, alors je vais être prudent sur le terme, mais je me demande de le comprendre, ce sont des citoyens à part, qui ont vécu leur vie comme ils ont pu, mais qui sont à part.
En conclusion,
ces citoyens, quelque part, je dis quelque part, dans les profondeurs de leur intimité, de leur moi profond, ce sont toujours des enfants cachés.
Eh oui. Alors, en conclusion de votre livre, vous nous rappelez les propos d'Elie Wiesel. Qui suis-je pour pardonner ? Qui a le droit de parler au nom des morts ? Les crimes nazis sont imprescriptibles parce que les morts sont morts et que personne ne peut parler à leur place. Alors il ressort des témoignages qui, rappelons-le, nous ont été rapportés en 1992, au moment de la parution de votre livre, qu'une attente récurrente était celle de voir la France reconnaître la responsabilité de l'État dans les crimes de Vichy. Alors avez-vous gardé le contact avec nombre de ces témoins et quelle a été leur réaction face au discours de Jacques Chirac du 16 juillet 1995 ?
Alors, il y a chez le juif de cette époque une espèce de fatalisme. Bien sûr, ils ont applaudi, même si c'était politique à l'époque, mais peu importe. Ils ont applaudi au fait que, à travers la bouche, à travers les mots prononcés par le chef de l'État, qu'il a reconnu. Que, on va être prudent aussi sur les termes, que l'administration française, pas les Français, mais l'administration française a collaboré à la destruction des 76 000 juifs qui ont été déportés et exterminés de France. Oui, ils ont applaudi, mais leur tragédie reste leur tragédie. Et aucun mot, M-O-T-S, ne viendra... penser, nettoyer, guérir leurs mots, M-A-U-X.
Alors, pour ceux qui vivent encore, on leur souhaite au moins jusqu'à 120 ans,
je le souhaite aussi.
Au-delà du travail de mémoire et autant que faire se peut de reconstruction, avez-vous l'occasion d'échanger avec certains de vos témoins ? Là, on plonge dans l'actualité de ces 5-10 dernières années, notamment face à la résurgence d'un antisémitisme violent et parfois létal. À la lumière de ce qu'ils ont vécu, comment envisagent-ils leur avenir et celui de leurs descendants avec cette montée exponentielle de l'antisémitisme ?
Ben, ils ont peur. Ils ont peur maintenant pour certains, pour leurs arrière-petits-enfants. Si cela, selon les mariages, mais oui, ils ont peur, ça ne s'arrêtera jamais. C'est la phrase qu'ils emploient. Ça ne s'arrêtera jamais. Et c'est à craindre, en tous les cas. C'est-à-dire, ce que nous voyons à nouveau ressurgir. Voilà, c'est à l'aune de ce qu'ils ont vécu, à la limite de ce qu'ils ont vécu, c'est ça ne s'arrêtera jamais. Et que peuvent-ils faire ? Ils ont l'âge qu'ils ont, ils ont vécu ce qu'ils ont vécu, ils n'ont pas de solution à proposer. Certains d'entre eux sont aussi dans un état psychique, soit AVC, etc. Donc, ils ont aussi des difficultés sur le plan de la mémoire, à se reconnaître eux-mêmes. D'ailleurs, il y a quelques témoins, je ne citerai pas les noms, bien sûr, qui ont du mal à se reconnaître. Donc, la phrase, c'est « ça ne s'arrêtera jamais ». C'est terrible, c'est les bras tombent, les bras vous en tombent. On a derrière nous 6 millions d'hommes, de femmes, et dont 1 million et demi d'enfants qui ont été assassinés parce qu'ils étaient ce qu'ils étaient. Et la conclusion, deux points, c'est ça ne s'arrêtera jamais.
Eh bien, c'est sur ces mots et sur les interrogations qui en découlent que nous allons nous quitter. Je rappelle que mon invité aujourd'hui était Raphaël Delpart. Il a publié « Les enfants cachés, des témoignages émouvants, une grande page d'histoire aux éditions de l'Histoire ». Je pense qu'on peut encore trouver le livre aujourd'hui. Vous dites en première page « Des Français courageux les ont sauvés d'une mort programmée. Devenus adultes, que reste-t-il à leur mémoire des années de silence et de leur isolement ?» C'est un petit peu tout cela dont il s'agit à l'intérieur d'un livre absolument bouleversant. Raphaël Delpart, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques moments.
Mais merci de m'avoir écouté.
Merci, à bientôt. Coulam.